Estelle Schmidt fréquente les salons d'esthétique.
Mais juste pour les ongles de pied.
Pour les ongles des pieds. Et on va parler des salons d'esthétique, figurez-vous. Et vous revenez avec vos pieds à 11h
voilà.
Pour une autre page d'information.
À tout à l'heure,
Estelle. L'esthétique est devenue un immense marché. Les salons d'esthétique sont des lieux que beaucoup de Françaises et de plus en plus de Français fréquentent. Qu'est-ce que ces lieux racontent sur notre société? Parce que figurez-vous qu'un historien s'est immiscé dans ces salons. Et qu'est-ce que les clientes attendent de leurs esthéticiennes? On va en parler avec des esthéticiennes et vos questions au 01 45 24 7000 et sur notre compte Twitter Service Public FI. Puisque c'est la mode, moi aussi je vais proposer de panthéoniser quelqu'un. Je pense qu'il faudrait panthéoniser un chômeur. Oui, un chômeur au Panthéon. J'aurais pu dire un chômeur inconnu, mais c'est quasiment un pléonasme. J'imagine que si les chômeurs étaient connus, on ferait quelque chose, un chômeur inconnu. Donc, par exemple, on pourrait prendre un chômeur d'Outreau. Oui, la ville dont il est une énième fois question dans l'actualité. Parce qu'encore une fois, on nous bassine avec Outreau et la pédophilie, alors que le vrai mal dont souffre cette ville, comme tant d'autres en France, c'est le chômage. Évoquer chaque jour l'affaire d'Outreau, c'est vérifier une fois de plus le vieux proverbe confucéen. Lorsque le sage montre le doigt, l'imbécile regarde la une. Alors la pédophilie matin, midi et soir. Mais il existe au moins une différence entre la pédophilie et le chômage. C'est que la pédophilie, à peu près tout le monde est contre. Le chômage, j'imagine que si l'on y était vraiment hostile, on aurait au moins tenté de changer les choses. Tenez par exemple à Outreau, la pédophilie, elle a concerné, allez, disons une douzaine de personnes. Le chômage, toujours à Outreau, lui touche, à l'heure où je vous parle, 750 personnes, le sous-emploi, environ 2100 personnes. Du coup, aujourd'hui à Outreau, 50% des foyers vivent avec moins de 1 200 € par mois, alors que la moyenne française s'établit à environ 3 000 €, presque 3 fois plus. Devant ces chiffres, chacun devrait prendre ses responsabilités, savoir s'il faut accorder autant de temps de cerveau disponible à un fait divers, aussi atroce soit-il, et aussi peu à un drame social, le chômage. À moins, mais je refuse d'y croire, qu'il y ait une morale inconsciente dans cette histoire, que l'on insiste sur la pédophilie pour montrer que les pauvres ne se comportent plus vraiment comme des hommes. Mais dans tous les cas, une information sur les pauvres reste une pauvre information.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Tout autre chose, nettoyage de printemps, la ruée vers les salons d'esthétique. On en parle tout d'abord avec Carole Perfitte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'école Perfitte Esthétique à Lyon et Aix-les-Bains et vous êtes MOF, êtes meilleur ouvrier de France, vous l'avez été en l'an 2000.
Oui.
En face de vous se trouve Laure Jean de Mange, bonjour.
Bonjour.
Laure Jean de Mange, vous êtes rédactrice en chef du magazine Les Nouvelles Esthétiques et Spa, un magazine destiné aux professionnels de la beauté et du bien-être, magazine qui s'est beaucoup développé et qui existe aujourd'hui dans de nombreux pays.
Il y a 20 éditions internationales des Nouvelles Esthétiques et on organise également un congrès qui réunit plus de 25 000 personnes, 25 000 esthéticiennes.
C'est ce qui témoigne d'ailleurs de l'importance de ce secteur. C'est un secteur important qui concerne donc 40 000 entreprises, dont certaines sont des petites entreprises. Il faut également dire au sujet de ce secteur, puisque j'ai évoqué en introduction le chômage, que ce sont des activités qui sont non délocalisables. On appelle ça de l'économie présentielle parce qu'elle est présente et donc elle est très importante dans les villes. Monique Amoros, vous le savez, puisque vous êtes esthéticienne depuis 1973, vous êtes co-présidente de la CNAIB, la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté. C'est un secteur qui se porte aujourd'hui plutôt bien.
Oui, bonjour. C'est un secteur qui se porte bien. Nous avons plus de 40 000 entreprises, 10 000 salariés dans le secteur. Et la CNAIB, qui est une organisation professionnelle, est pour défendre les intérêts de notre profession. Et un de ses grands chevals de bataille, c'est le respect de la qualification.
Le respect de la qualification, puisque aujourd'hui, c'est une activité qui demande de plus en plus de compétences.
Tout à fait. Aujourd'hui, le premier diplôme, c'est le CAP. Nous conseillons aux jeunes qui veulent s'installer d'avoir au moins un brevet professionnel. Et puis ensuite, il y a le bac pro, le BTS et un titre de l'artisanat qui est le BM3.
La professionnalisation, vous en témoignez, Carole Perfitte, puisque
oui.
Vous dirigez une école.
Oui, filière de formation extrêmement bien structurée dans notre métier, donc allant d'un niveau 5 à un niveau 3, avec un brevet de technicien supérieur des métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Donc vous voyez, une filière de formation avec des qualifications et des compétences en regard.
Et puis, je l'ai dit également en introduction, nous sommes en compagnie d'un historien, Yvan Jablonka. Vous publiez Le corps des autres aux éditions du Seuil. Vous avez fouiné dans les salons d'esthétique d'ordinaire. Vous êtes plutôt en train de travailler sur des sujets plus austères. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur ces salons d'esthétique ?
J'ai pas mal travaillé dans ma jeunesse sur les enfants et les enfants abandonnés. Et qui dit abandon, dit mère en souffrance. Donc très rapidement, je me suis intéressé aux mères et aux femmes qui souffrent au 19e et au 20e siècle. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur les jeunes délinquants, les juifs déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après avoir travaillé sur le corps volé, violé, blessé, détruit, eh ben j'ai eu envie de renverser la perspective et de travailler plutôt sur le corps cajolé, rayonnant, splendide en gloire, et ça m'a conduit à pousser la porte des instituts de beauté. Mais plus largement, les instituts de beauté, c'est un révélateur passionnant sur les différentes conditions de la femme aujourd'hui.
Voilà effectivement quelque chose sur lequel il faut insister. Les salons, les instituts de beauté révèlent notre rapport au corps, un rapport au corps qui concerne les femmes, mais qui concerne aussi de plus en plus les hommes. Ce rapport au corps n'a rien de frivole, on peut considérer que c'est une dictature, on peut considérer qu'il faut lutter contre, mais en tout cas, ça n'est pas du tout un sujet secondaire. On continue à en parler tout de suite après Blur, Lonesome Street, un disque choisi par Thierry Dupin avec Olivier Bétard à la réalisation.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Here and then you are in a yellow dot.
Service public sur France Inter, nettoyage de printemps, la ruée vers les salons d'esthétique. On en parle en compagnie de Carole Perfit, qui dirige une école d'esthétique à Lyon et Aix-les-Bains. Laure Jeandemange, qui est rédactrice en chef du magazine Les Nouvelles Esthétiques Spa. Et Monique Amoros, qui est coprésidente de la CNAIB, la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté. Et enfin, Yvan Jablonka, historien, qui publie Le Corps des Autres aux éditions du Seuil. Il est important de souligner, Carole Perfit, que les instituts d'esthétique, ça n'est pas seulement de l'épilation.
Ah oui, c'est essentiel. On a un panel de prestations aujourd'hui qui est extrêmement large et il faut pas voir ça que par le prisme de l'épilation. C'est ce qu'on appelle la prestation d'appel, l'épilation. Voilà, on va chez son chez une esthéticienne. Si cette prestation est bien faite, on peut aller envisager d'aller sur d'autres soins. Et le soin du visage, alors vous dites nettoyage de printemps, effectivement on a le mot nettoyage, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais effectivement c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le soin d'appel de base du visage. Mais c'est surtout un secteur où on a envie de se poser. Quand on rentre dans un institut, c'est pour se reposer, c'est pour se poser. C'est comme le dit, comme vous le dites dans votre ouvrage.
Yvan Jablonka.
Voilà. pour se faire chouchouter, passer un moment à soi. Et d'ailleurs, en tant que vice-présidente de la Chambre de métiers du Rhône, nous avons pu constater que l'activité, si vous voulez, au niveau des instituts de beauté, dans cette période un petit peu de crise économique, n'a pas faibli. C'est-à-dire qu'on avait quand même envie, justement parce que c'était difficile, de partager un moment d'intimité avec quelqu'un.
Et pourtant, c'est cher. Alors, peut-être que vous qui travaillez dans ce secteur, vous trouvez que ça n'est pas assez cher, mais ça reste quand même relativement cher. Monique Amoros, où en sont les prix dans ce secteur ?
Les prix dans le secteur, le soin visage varie en fonction de ce qu'on... Il y a le prix d'appel par le nettoyage de peau qui va tourner autour de 50 euros, suivant les régions. Et puis, ça peut aller jusqu'à 80, 100 euros, voire un peu plus, si on y apporte de la spécificité dans l'antivieillissement, dans la réhydratation, dans le raffermissement.
On parle de dictature parce que l'on considère que l'on est obligé, surtout lorsqu'on est une femme, de se soumettre à ses obligations, notamment à l'épilation, qui est une opération douloureuse, je le dis, parce que je le sais, Thomas Chauvineau s'est naguère livré à une opération d'épilation sur lui-même et on l'entendait souffrir dans cette auto-interview qu'il avait fait de lui-même tandis qu'il se faisait épiler. Est-ce que vous avez l'impression de participer à un dictat qui est un diktat de la beauté, Carole Perfit?
Non, absolument pas. Non, absolument pas. En tout cas, c'est pas ce qui nous anime. Hein, vraiment, nous, ce qui nous anime, c'est que, encore une fois, comme vous le dites très bien, Yvan, c'est de s'occuper des autres. C'est vraiment de prendre soin. Voilà, une esthéticienne, elle prend soin. C'est pas la beauté, c'est le bien-être.
Laure Jeandemange.
La cliente va chez son esthéticienne pour obtenir un résultat visible, mais il y a aussi une notion très importante, c'est le toucher. Nous sommes dans une société de surcommunication. On parle, on communique à longueur de journée et on ne se touche plus. On touche le bébé, on touche la personne âgée et entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Là, il y a un vrai problème. Donc, plus ou moins consciemment, la cliente va chez son esthéticienne pour recevoir ce toucher professionnel, réconfortant, bienveillant. Et en plus, il y a du résultat sur son visage. Et on le sait, là, il y a des études scientifiques. On s'interroge toujours sur les dysfonctionnements. On commence enfin à s'intéresser au bien-être et à tout ce que ça peut apporter de positif. Des entreprises, comme Google, par exemple, font profiter leurs salariés de moments de bien-être et de massage. Pourquoi ? Parce qu'après, ils sont plus heureux. Ils s'en fichent, Google, que ses salariés soient plus heureux ? Non, parce qu'un salarié plus heureux, c'est un salarié plus performant.
Yvan Jablonka, vous êtes donc promené dans ces salons d'esthétique, vous êtes historien. Est-ce que ce qui vient d'être dit corrobore ce que vous y avez constaté ?
Oui, c'est des questions qui se posent aussi bien aux esthéticiennes qu'à leurs clientes. Moi, je présenterai le problème de la manière suivante. Est-ce qu'on peut concilier féminisme et esthétique. En effet, l'esthétique, on la tourne parfois en dérision en disant que c'est une histoire, c'est simplement une histoire d'arrachage de poils, le règne des apparences, un monde de futilité, la prison du physique. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cela est compatible avec une émancipation de la femme? Est-ce que on veut être belle ou est-ce qu'on doit être belle? Et la manière dont je réponds à cette question, c'est que on ne peut pas parler de tyrannie dans la mesure où l'esthétique, c'est aussi une manière de se soucier de soi, d'ouvrir une parenthèse dans une vie qui est toujours plus rapide, toujours plus dominée par l'accélération, la folie du quotidien. Et donc, avoir un moment pour soi dans un institut de beauté, c'est une manière d'ouvrir une parenthèse dans la journée de travail, les bouchons, l'heure de pointe dans le RER. Et puis, c'est aussi une manière d'avoir un moment pour soi quand on est une femme et qu'on cumule trois journées de travail. Le bureau, les enfants et les tâches ménagères quand ils sont couchés.
Carole Perfitte.
Oui, en sachant que, alors, en plus, les femmes ont toujours une appréhension de se dire, oh là là, mais je vais me consacrer ce temps, je vais m'offrir ce temps-là.
C'est culpabilisant.
Voilà, c'est culpabilisant. Alors, quand on va chez le coiffeur, à la limite, on rentre, son mari a vu qu'on était chez le coiffeur, avec un peu de chance. Si on rentre de chez l'esthéticienne, c'est peut-être même pas forcément le cas.
Ah bah, ça veut dire que ça marche pas, le soir, dans ce cas-là.
Ça, je savais que vous alliez dire ça.
C'est très subtil.
Voilà. Mais c'est cette espèce de prise de conscience, d'avoir un besoin, d'un temps pour soi.
Monique Amoros.
Oui, peut-être que cette culpabilité, c'est aussi parce que la femme a l'habitude de s'occuper des autres, de ses enfants, de son mari, et pour une fois, c'est elle qui va recevoir. Et ça, c'est pas tout à fait dans notre culture encore.
Mais il faut quand même évacuer cette question, je l'ai dit en introduction, c'est aujourd'hui une clientèle majoritairement féminine, mais il y a des hommes quand même.
Ah oui, oui, vraiment.
Qu'est-ce qu'ils font les hommes dans les salons d'esthétique?
Eh bien écoutez, ils viennent... On va peut-être aussi élargir salon d'esthétique, centre de bien-être, voilà, les spas. Les hommes sont rentrés dans nos structures par la porte du spa, où ils commençaient à venir se faire masser. Vous savez, se faire masser, c'est quelque chose de culturel. De tout temps, les hommes se sont fait masser. Au temps des Romains, dans les pays du Maghreb, c'est culturel. Et chez nous, ça ne l'est pas parce qu'on est des Latins. On a le sang un peu chaud. Mais se faire masser, c'est permettre au corps de se libérer des tensions. Voilà.
Philippe est au standard. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Philippe.
Comme l'indique mon prénom, je suis un homme. Je fréquente non pas assidûment les salons, mais bon, c'est essentiellement épilation du dos. Et en fait, je m'interroge un peu sur ce marché actuel de l'esthétique masculine, notamment du fait que beaucoup de salons sont mixtes, et je sais que certains de mes amis ou collaborateurs mâles ont quelques réticences à ouvrir la porte d'un salon du fait qu'il soit mixte. Et je m'interrogeais donc sur les services propres, je dirais, à l'homme. Alors, on a évoqué le spa, l'esthétique, etc., le massage. Et quel est le poids de ce marché masculin? Quels sont les services propres aux hommes et qui sont différents de ceux des femmes? Enfin, j'imagine, hein, j'en sais rien.
On va poser la question.
Quels sont les nouveaux services à venir? Voilà.
Merci Philippe pour cette question. On la pose immédiatement à Monique Amoros, qui est coprésidente de la CNAIB, la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté.
Les hommes peuvent recevoir les mêmes services que les femmes. Le soin du visage, le soin du corps par le massage de détente, les épilations, puisque aujourd'hui aussi, bon, il y a les critères de beauté, et puis aussi les sportifs se font épiler. Et les épilations, les hommes viennent de plus en plus. Et souvent, c'est le premier pas vers l'institut, puis on les amène, comme je le disais tout à l'heure, vers autre chose.
Laure Jean Demange, les Français, par rapport aux étrangers, dans le rapport qu'ils ont au corps, est-ce que les hommes en France vont plus facilement, moins facilement dans les salons d'esthétique?
C'est un secret pour personne, les Français sont sales. Nous sommes sales, c'est la réputation
que nous avons
à l'étranger. Ouais. Est-ce que c'est une réalité? Alors regardez chez vous, vous en êtes avec vos gels douches, etc. Maintenant, oui, on est obligé de prendre soin
de soi. Mais vous qui voyez les Français dans les salons d'esthétique, est-ce que vous les trouvez sales?
quelquefois.
Oui. Là, il y a des choses pas proprettes, hein, mais dans les magasins aussi, hein, dans les vestiaires des magasins, c'est pas formidable non plus. On n'est pas pire qu'ailleurs. Maintenant, le sportif, le cycliste doit s'épiler les jambes. Voilà, c'est un premier pas dans l'institut. Et les instituts, les soins pour hommes se développent. La thalasso aussi, c'est une porte d'entrée pour l'homme, pour qu'il prenne soin de lui.
Yvan Jablonka, dans Le corps des autres, vous évoquez ce rapport entre une profession qui est très très majoritairement féminine et quelques clients masculins qui entrent dans les salons d'esthétique.
Ce qui est frappant, c'est que ça reste quand même une des professions les plus féminisées de nos sociétés. Enfin, je ne sais pas s'il y a des professions qui ont un taux de féminisation aussi fort. On est à 95, 98% parfois. Je crois qu'à l'école Perfit, il y a 99% d'élèves filles. Donc c'est quand même des choses très frappantes. Ça montre à quel point le soin du corps est encore associé à la sphère du féminin. À tort ou à raison.
On commence à voir quand même de plus en plus de maquilleurs qui sont
oui,
des hommes.
Oui, parce que si vous voulez, le mot esthétique est un petit peu sclérosant dans sa définition. C'est-à-dire, on parle esthétique, on pense salon. Mais il faut voir notre univers. Notre univers, c'est le maquillage, c'est également la parfumerie. C'est un secteur qui se développe énormément et c'est pour ça que la filière de formation est extrêmement bien structurée. Et on voit bien sûr venir chez nous des garçons pour apprendre notre métier à la base et qui deviennent soit de grands maquilleurs professionnels, puisqu'on a de grands maquilleurs pros dans notre domaine d'activité, soit qui travaillent dans le secteur de la parfumerie. Tous les technico-commerciaux dans les grandes marques de parfumerie, il y a beaucoup d'hommes. Et ils passent par des brevets de techniciens supérieurs d'esthétique cosmétique. Ils complètent leur formation par une formation expert marketing beauté, par exemple, pour se mettre dans ce secteur de la parfumerie. Donc voilà, l'esthétique, il faut exploser les barrières et exploser le mot.
Agathe nous dit sur Internet, l'épilation est non seulement un diktat, mais aussi un tabou. Sortir sans être épilé est absolument inconcevable. Les femmes doivent se faire épiler le maillot, torture dans une position humiliante. Porter un bikini à la plage n'est pas une libération, mais un esclavage. Qu'en pensez-vous ?
C'est un respect pour les autres également. Voilà, de montrer qu'on est propre, qu'on prend soin de soi.
Le poil n'est pas sale, s'il est lavé.
Non, mais bon, je trouve que c'est légitime aujourd'hui de montrer que l'on prend soin de soi. Moi, avoir ma voisine qui aurait les ongles tout pleins de terre, ça m'emballerait pas des masses, quoi.
Bon, mais je vais répéter cette phrase qui a beaucoup plu en régie. Le poil n'est pas sale s'il est lavé.
Non, le poil n'est pas sale, mais donne une impression de sale. C'est ça. Comme certains maquillages ou s'il y avait une mode avec les ongles, le vernis tout écaillé. Non, c'est pas sale, mais ça fait sale.
Et du coup, vous en venez, puisque j'ai l'impression que vous partagez cette idée que le poil serait sale. Non, pas vous d'ailleurs,
non,
apparemment, Carole Perfit.
Non, disons
que voilà, si vous voulez, on en revient toujours à l'épilation et c'est un petit peu, il n'y a pas que l'épilation. Non. Yvan parle du corps dans son livre et du rapport au corps, à prendre soin du corps. Voilà.
Il parle aussi de l'évolution des normes. On voit qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se font épiler. On voit que l'épilation est de plus en plus intégrale. Vous en parlez, Yvan Jablonka, dans Le corps des autres.
Ce qui m'a frappé pour sur le fait que les hommes sont de plus en plus des clients, c'est que ça atteste un changement dans ce que c'est que la virilité. La virilité aujourd'hui, c'est plus simplement, enfin on sait même pas du tout être une espèce de d'ours mal léché ou de brute qui se lave pas. Inversement, on peut imaginer, et d'ailleurs c'est le cas de plus en plus, que la virilité se combine avec soin de soi-même, le souci du lisse, du raffinement, de la douceur. Et donc qui dit cette nouvelle virilité dit sans doute esthétique et soin de soi.
On continue à parler de l'esthétique, on parle du soin des ongles parce qu'Estelle Schmitt a les ongles de pied faits et Antoine Mie s'est fait faire les ongles des mains avec de drôles de petits tatouages pour les ongles. C'est la nouvelle tendance, il a de très jolis ongles, enfin sauf qu'il se les est rongés. On en parle tout de suite après Brigitte Bardot, Contact.
Météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. infusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie.
Service public sur France Inter, il est question des salons d'esthétique et nous avons un autre homme dans la salle d'attente, Claude, qui nous appelle du Lot. Bonjour Claude.
Oui, bonjour et merci pour Brigitte Bardot, c'est de mon époque. Je vous
c'est
appelle
de notre époque. Hein. Brigitte Bardot, elle est encore des nôtres, Claude.
Oui, mais je parle de ma jeunesse. Donc j'ai une petite fille, excusez-moi, j'ai une petite fille pour ses 18-19 ans, a commencé à se faire refaire entièrement le corps. Ça relève à la fois de l'esthétique, mais aussi de la chirurgie esthétique. Lorsque je l'ai vue transformée, je lui ai offert un livre qui s'appelait « La dictature du paraître », dont je ne me souviens pas l'auteur. Moi je dirais qu'elle est, comme on tombe en pamoison, elle est tombée dans cette dictature-là. Est-ce que vous pourriez aborder un petit peu ce sujet ?
Merci Claude, on va en parler immédiatement. Je dois dire qu'il y a aussi beaucoup de réactions sur l'épilation des femmes qui manifestement ne sont pas d'accord avec vous quand vous dites que l'épilation est en quelque sorte un respect des autres. Vos réactions par rapport à cela, Carole Perfit ?
Par rapport à la question du monsieur. Alors en fait, malheureusement, c'est un phénomène de mode. Hein. Je veux dire, ce sont les médias qui apportent par rafale des images de corps parfaits.
Retouchés. Retouchés largement sur
les photos.
Retouchés.
Les photos.
Une photo
non retouchée, ça n'existe pas.
Il y a des corps parfaits, voilà. Ça, malheureusement, c'est une mode. Et c'est vrai que les jeunes filles sont très sensibles parce que ça circule, ces images circulent. Voilà. Après, entre prendre soin de son corps en faisant attention à son alimentation, en faisant du sport régulièrement, avant d'arriver jusqu'à la chirurgie esthétique, c'est bien entendu, il y a un univers entre les deux.
Yvan Jabloncard, l'audite qui avait dans le corps des autres retranscrit en quelque sorte ce que vous avez vu dans ces salons d'esthétique.
Le monsieur que nous entendions Claude parlait de chirurgie esthétique. Donc ce qui nous fait un petit peu changer de sujet tout simplement parce que on entre dans le domaine de la dermatologie qui n'est pas le domaine des esthéticiennes qui elles doivent en rester à l'épiderme et non pas au derme. Donc moi j'ai discuté avec pas mal d'esthéticiennes qui m'ont dit que elles étaient des ennemies du botox, que c'était invasif, que il valait mieux faire de la gym faciale ou je sais pas comment ça s'appelle. Bref, en tout cas, ces esthéticiennes luttent à leur manière contre cette tyrannie de la beauté. Cette tyrannie de la beauté, elle pèse sur certaines clientes et sans doute sur cette jeune fille qu'on évoquait sous la forme d'une trinité maudite. La trinité maudite, c'est le gras, les rides et le poil. Il faudrait se débarrasser de ces trois ennemis. Et un certain nombre d'esthéticiennes, même si elles vivent de la lutte contre cette trinité maudite, un certain nombre d'esthéticiennes recommandent au contraire de s'accepter tel que l'on est, de se trouver belle pour soi, tel que l'on est.
C'est-à-dire que finalement, les esthéticiennes avec qui vous avez discuté, Yvan Jablonkard, sont plutôt moins dictatoriales que ce que l'on trouve dans les magazines de mode.
Elles sont dans une situation paradoxale, parce qu'après tout, elles en vivent. Elles ne vont pas non plus scier la branche image sur laquelle elles sont assises. Mais en même temps, c'est vrai que beaucoup d'esthéticiennes tiennent un discours qui est beaucoup plus émancipateur et féministe qu'on pourrait le croire, et en tout cas beaucoup plus libérateur que la tyrannie de la beauté. Elles disent à un certain nombre de clientes, une ride, ça peut être beau, le poil, il s'agit pas de s'épiler le duvet sur l'avant-bras ou autour du nombril, ça n'a pas de sens. Des esthéticiennes refusent de pratiquer l'épilation intégrale à des jeunes filles, ou en tout cas de moins de 20-22 ans. Oui, et ça, c'est une manière de lutter contre cette tyrannie tellement invasive.
Monique Amoros, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'en suis sûre, aujourd'hui, dans les instituts, une esthéticienne est capable autant de faire un soin du visage ou un soin du corps et de vendre et de conseiller des produits à sa cliente qui ont les mêmes résultats. Souvent, on a des produits de beauté à base d'acide hyaluronique, on a du collagène, on a des tas de principes actifs dans les produits de beauté qui peuvent amener une cliente, une personne, au même résultat que de passer dans les mains d'un dermato ou d'un médecin esthétique.
Carole Perfit, vous qui dirigez une école d'esthéticienne.
Oui, en fait, il faut savoir qu'on a beaucoup de connaissances en amont, et notamment beaucoup de connaissances en termes de biologie cutanée, en termes de cosmétologie. La peau est un organe, et la peau fait partie, enfin on a la chance d'être un organe des sens. Que vous touchiez quelqu'un avec le bout de votre petit doigt ou avec votre genou, vous ressentez quelque chose. Donc la peau, c'est juste quelque chose de merveilleux. Vous avez mal à l'estomac, vous prenez un cachet. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour faire du bien à votre peau ? Eh bien, nous sommes là pour faire du bien à notre peau. Et on cumule ce bien extérieur avec un bien intérieur. Parce que pendant ce temps-là, on se touche.
Natacha est au standard. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Vous nous appelez de Lille et nous vous écoutons, Natacha.
Alors, je voulais simplement apporter ma petite touche personnelle. Et justement, là, j'entendais parler la trilogie maudite. Alors, je suis éminemment féministe et activiste dans ce sens-là. Et pourtant, je fréquente certains instituts de beauté quand le budget le permet. C'est pas que les prestations soient chères. Je trouve qu'elles valent le prix qu'on nous demande. Simplement, il faut avoir le budget. Je trouve pas que ce soit contradictoire. La trilogie maudite, c'est-à-dire le poil, la graisse
et les rides.
Je m'en fous, j'ai 45 ans, je me fous de mes rides, je me fous de mes poils, je me fous de la graisse. Je suis fait une taille 52. Quand je vais chez l'esthéticienne, c'est pour prendre un moment pour moi. Et en cela, je trouve que c'est pas contradictoire d'être féministe, bien au contraire. Je fais faire mes ongles, du nail art, des dessins, je trouve ça joli, je trouve ça rigolo. J'aime bien le regarder à longueur de journée, c'est une petite touche esthétique sympathique à regarder et qui me remonte le moral. J'aime bien me faire faire les pieds parce que je travaille debout toute la journée. Donc me faire masser les pieds, c'est à la fois essentiel et puis un grand moment de plaisir. Faire un massage du visage pour que ma peau soit bien hydratée, parce que je n'ai pas tout le temps de boire l'eau qu'il faudrait dans la journée. Je trouve ça hyper confortable. Et pourtant, je ne réponds pas du tout aux critères ni esthétiques ni quoi que ce soit. Je commence à avoir des rides, j'ai 45 ans, je fais une taille 52. Aucune esthéticienne ne m'a jamais poussée à la consommation par rapport à justement ce qui pourrait être le diktat de la beauté. Elles ont bien compris que je viens pas là pour ça, mais je viens pour une petite parenthèse de douceur, on va dire. Et en ça, c'est pas contradictoire justement de fréquenter les salons d'esthétique et d'être féministe. Voilà.
Merci.
C'est mon touche personnelle.
Merci beaucoup, Natacha, pour ce témoignage, Yvan Jablonka.
Mais moi, tout mon propos, c'est de dire justement qu'on peut concilier féminisme et esthétique. Je crois que tout le monde l'aura compris. Ça me paraît une évidence, et c'est précisément parce que les femmes sont celles qui doivent justement s'occuper des autres à longueur de journée, qu'elles ont besoin de ce moment à elles. Donc on pourrait presque définir l'esthéticienne comme celle qui s'occupe de celle qui s'occupe des autres. Il y a une espèce de don de soi qu'on trouve dans les métiers de l'esthétique, et c'est parfaitement compatible avec le souci de toi et tout simplement la dignité humaine. On ne parle pas simplement d'homme ou de femme. Se soucier de soi et prendre soin de son corps, c'est tout simplement, ça fait partie de la dignité humaine. Et quand on regarde ce qu'ont fait les totalitarismes au XXe siècle, ils ont commencé, avant d'assassiner des gens, ils ont commencé par les humilier dans leur corps, en empêchant les femmes juives, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de se teindre les cheveux ou de se maquiller. Et il suffit de voir aujourd'hui comment le viol est utilisé comme arme de guerre. Donc le totalitarisme s'en prend bien souvent au corps des êtres humains, mais aussi au corps des femmes.
En tout cas, il y a un homme qui prend soin de son corps de plus en plus, c'est Antoine Lee. Bonjour Antoine.
Salut
Guillaume.
Une
véritable transformation, puisque vous avez testé pour nous une pratique qui en France demeure encore généralement réservée aux femmes, et pas à toutes les femmes, puisque j'avoue que vos ongles, je les ai rarement vus sur les ongles d'une femme. C'est le nail art, autrement dit l'art avec les ongles.
Ouais, grâce à vous, Guillaume, je suis un reporter verni, si on peut dire. Mais vous l'avez dit, alors donc c'est en quelque sorte faire de l'art avec comme support les ongles. Ça consiste à faire de jolies formes, de jolis dessins, avec de belles couleurs sur les ongles. Alors ça cartonne chez les ados et les trentenaires. À l'étranger, ça touche aussi les hommes, parfois même des célébrités. Mais en France, les mâles ont encore quelques difficultés à franchir le pas. Mais pour vous, Guillaume, j'ai accepté de tester le nail art. Et pour ça, je suis allé voir Pauline alias Souchka. Elle est nail artiste depuis 4 ans.
Alors moi, je pensais peut-être partir sur un nail art plutôt mat pour garder un effet un peu viril et pas avoir un ongle plein de strass et un peu trop féminin. Et je pensais aussi peut-être partir sur des teintes plutôt foncées. Ça vous tente ?
Ah bah avec plaisir, hein. Moi je vous fais totalement confiance.
J'espère que le résultat sera à la hauteur de vos attentes. Donc là, je lime légèrement les bords de vos ongles pour éviter d'avoir des tout petits coins qui viendraient vous entailler la peau.
Est-ce que vous considérez comme une artiste ?
Je sais pas si j'aurais la prétention de... Enfin, je sais pas en fait comment est-ce qu'on peut labelliser quelqu'un comme étant un artiste. Je sais pas du tout. Mais une nail artiste, oui.
D'ailleurs, là, sur votre bureau, vous avez toute une palette de vernis de toutes les couleurs. Il y en a beaucoup, hein.
Je pense que je peux dire que j'en ai entre 600 et 700, ce qui est totalement indécent, en fait, lorsqu'on y pense comme ça. Mais étant donné que c'est mon outil de travail, du coup, je me rassure un petit peu en me disant ça.
Hop, on passe à la main gauche.
Alors, du coup, là, je pensais donc utiliser ce qu'on appelle des nail liners. Ce sont, en fait... comme des flacons de vernis qui ont à l'intérieur un pinceau très long et très fin qui permet de faire des lignes. Et du coup, je pensais créer des motifs un peu graphiques sur vos ongles avec ça.
Quel type de dessin on peut faire sur des ongles ?
En fait, on peut tout faire. On va pas passer toutes nos journées à faire des ongles roses ou des ongles rouges. On peut faire des choses abstraites, on peut faire des choses au contraire plus représentatives. On peut faire des hamburgers, des fleurs, des feuilles. C'est vraiment superbe.
Vous avez beaucoup d'hommes parmi votre clientèle ?
Non, c'est vraiment assez rare. Mais je pense que c'est aussi typiquement français, en fait, de ne pas forcément oser, pour un homme, porter du nail art ou du vernis, de peur de choquer, de peur d'être jugé. Peut-être un peu trop efféminé, peut-être un peu trop en dehors des sentiers battus.
Et ailleurs, comment ça se passe ?
Au Japon, ça se fait de plus en plus. Et cette tendance-là, c'est du coup ensuite exportée aux États-Unis, puis ensuite est arrivée en Angleterre. Donc ils ont vraiment une avance là-dessus, sur ces tendances-là que nous n'avons pas encore.
C'est beau, hein, c'est très élégant, hein, ce que vous me faites là. Il y a des stars qui s'y sont mises ?
Oui, pas mal. Il y a Johnny Depp qui portait du vernis, également Brad Pitt. Je vais rajouter également quelques lignes blanches sur les autres ongles. Qu'en pensez-vous ?
Ah bah je trouve ça vraiment étonnant et très joli.
Ouais, c'est joli, c'est bizarre. C'est bizarre si vous avez les ongles noirs avec des petits... Enfin, les ongles noirs peints, hein, c'est pas sale, Antoine dit. Mais enfin, bon, voilà, vous avez de jolies mains maintenant.
Bah ouais, on va mettre les photos sur le site de service public. En tout cas, Souchka, on est convaincus, les Français, les hommes, vont eux aussi adopter le nail art. En fait, ça va connaître la même trajectoire que le tatouage ou le piercing. Souvenez-vous, au début, c'était assez mal vu, et ça s'est ensuite démocratisé. Et si vous voulez en savoir plus sur le nail art, Souchka vient de publier un livre aux éditions Hachette Bien-être.
Qu'en pensez-vous, Monique Amoros, vous qui êtes esthéticienne ?
Je pense que d'avoir de belles mains, de pouvoir sortir et avoir de beaux ongles, ça fait partie d'un ensemble, d'un tout, tout comme être bien épilé, d'être maquillé, d'être soigné.
Vous savez pourquoi les ongles, le nail art et le vernis, ça s'est tant développé ? Parce que maintenant, avec les smartphones, ces mains, on les voit tout le temps. C'est quand même beaucoup plus agréable de voir de jolies mains. Et ça, vraiment, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Les femmes voient leurs ongles à longueur de journée, et s'ils sont beaux, elles se disent « Oh là là, c'est beau, c'est trop beau !»
Eh bien écoutez, on va continuer à visiter les salons d'esthétique et les nouvelles pratiques esthétiques, ainsi que les anciennes, tout de suite après les Beach Boys, Good Vibrations.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations. Good vibrations.
Service public sur France Inter, il est question de l'esthétique avec une question de Clémence qui nous appelle de Malakoff. Bonjour Clémence.
Oui, bonjour. Je suis Clémence Souquet, je suis gérante et créatrice de l'entreprise Frésia. Je vous appelle parce que nous intervenons auprès de personnes âgées dépendantes de plus de 85 ans uniquement en maison de retraite, en EHPAD. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 2000 clients et j'aimerais aborder avec vous la question de la vieillesse, du rapport au corps et de l'esthétique.
Effectivement, avec un secteur très large qu'on peut appeler la socio-esthétique, autrement dit, toutes les manières de redonner de la confiance et de l'estime de soi à des gens qui, ou bien pour des raisons de santé, ou bien pour des raisons sociales, sont dans la détresse. Carole Perfit, vous qui dirigez une école d'esthétique, qu'en pensez-vous ?
C'est l'essence de notre métier en fait. C'est l'essence de notre métier de s'occuper des autres, ça je crois qu'on l'a compris depuis le début. Se tourner vers des personnes qui sont en souffrance, c'est une valorisation de notre métier extrêmement importante. Cependant, les gestes ne sont pas les mêmes. On ne touche pas une personne âgée de la même manière qu'on touche, on parlait des hommes tout à l'heure par exemple, ou une personne malade. L'idée étant vraiment, comme vous le disiez très bien, de redonner confiance, de redonner de l'estime de soi, de revaloriser l'image. blanche. Les personnes âgées, mamie tu piques, mamie tu sens pas bon, etc., etc., n'ont plus du tout ce contact-là. Enfin, je veux dire, c'est impossible, justement. Donc nous sommes là pour réapporter ce confort tactile.
Clémence, qu'est-ce que vous proposez, du coup, aux personnes âgées ?
Alors, nous, quand on parle de personnes âgées, il faut dire que hommes et femmes reçoivent ces soins esthétiques. Mmh. Donc, tout à l'heure, la question de l'épilation était abordée. On fait effectivement de l'épilation, des manicuries, des massages, des modelages. Les hommes, même s'ils ont 90 ans, sont très heureux de recevoir nos massages. Et voilà, tout ce qui est finalement soin du visage. L'idée, en fait, c'est de dire rester beau, c'est aussi rester digne en maison de retraite. Il y a aussi tout cette relation de réconfort, d'estime de soi, où on passe du temps avec eux et on fait bien plus que de l'esthétique, on fait de l'échange. Il y a aussi beaucoup de psychologie. Il y a des établissements comme le CODES qui parle même de psychosocio-esthétique. Donc nos intervenantes sont vraiment dans de la thérapie non médicamenteuse.
Votre avis là-dessus, Yvan Jablonka, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui publiez Le corps des autres, autrement dit le regard d'un historien dans des salons d'esthétique ?
La socio-esthétique ou l'esthétique à vocation sociale, c'est quelque chose que j'ai complètement découvert quand j'ai mené mon enquête. Et ça consiste à donner des soins esthétiques à des personnes en situation de fragilité sociale ou des populations vulnérables ou en situation d'exclusion sociale. Donc par exemple, des femmes détenues ou des SDF ou des chômeurs ou des femmes victimes de violences conjugales. Et ce domaine, la socio-esthétique, ça révèle un peu quelque chose qui est latent dans les métiers de l'esthétique, c'est-à-dire la qualité d'écoute, le contact humain et le fait de redonner de l'estime de soi à des personnes qui l'ont perdue parce qu'elles sont en situation d'isolement ou de solitude. Donc là, il ne s'agit plus de papoter entre un thé et un magazine féminin, je le dis de manière caricaturale, mais de maquiller une femme détenue ou de faire une beauté des pieds à une personne handicapée. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que ça montre que l'esthétique et peut se rattacher au domaine du soin plus largement.
Carole Perfit.
Oui, nous à l'école, on fait ça énormément. C'est-à-dire qu'on met beaucoup nos étudiantes en contact dans les maisons de retraite. Elles vont également à la Croix-Rouge. Elles sont au contact de centres sociaux. On les met, si vous voulez, on les confronte à cette réalité-là. On rentre dans une école d'esthétique parfois pour le maquillage, pour les paillettes, etc. Ça existe et on l'a. Mais on les confronte aussi à la réalité de la vie en les envoyant partout sur le terrain, partout où on nous demande d'apporter un peu de sourire. Sur les marchés de Noël pour aller faire du maquillage enfant. On a eu la chance cette année, enfin la chance. Nous sommes allés à Léon Bérard, qui est le centre de cancérologie de Lyon, avec un groupe d'esthéticiennes à vocation sociale. C'est vrai que pour faire des maquillages d'enfants pour Halloween, vous repartez de là, vous êtes différente.
Laure Jean Demange, votre réaction par rapport à ça, par rapport à ces conversations qui se nouent dans les salons d'esthétique, puisque on se dit qu'il y a également des choses qui s'évoquent entre une esthéticienne et sa cliente, qui concernent la vie intime, les malheurs, les bonheurs de l'existence.
L'esthétique, comme on l'a abordé jusqu'à présent, c'est vraiment une pause, une parenthèse égoïste, hein, parce que visiblement c'est ce qui ressort, on vole du temps, la femme vole du temps, rien que pour elle, et donc pendant cette pause elle s'abandonne, elle se livre, donc voilà, elle allez, c'est bon, vas-y, réconforte-moi, réconcilie-moi avec ce corps que je n'aime pas, qui ne me plaît pas, apporte-moi du bien-être, fais du bien à mon âme aussi, touche-moi avec un toucher bienveillant et professionnel. Voilà, et on se laisse aller, on se confie. Beaucoup d'esthéticiennes, beaucoup de clientes des instituts de beauté disent que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, tellement ça
c'est
leur fait du bien.
C'est ce que vous pensez en tant qu'esthéticienne. Nous avons un dernier appel, Jérôme qui est au standard. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour Jérôme, j'appelle de la région Rhône-Alpes. Merci pour votre émission. Moi, pour faire court, je suis ce qu'on appelle dans le jargon actuel un métrosexuel.
Ah oui.
Donc, je suis assez assidu au salon de d'esthétique. Je me fais épiler régulièrement. Je fais du sport. J'ai un petit peu le culte du corps sans en être esclave, mais je trouve que c'est très bien. Par contre, tout à l'heure, on entendait au niveau des écoles, qui sont majoritairement, dont les élèves sont majoritairement féminines, à 99%, moi je trouve que c'est bien, honnêtement. Je me verrais pas prendre quelqu'un prendre soin de mon corps autre qu'une femme. Je pense que c'est pas du tout du machisme, hein, on est bien d'accord. Mais je pense que s'il fallait me faire épiler par un homme ou masser par un homme, je pourrais pas, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment un soin, c'est quelque chose réservé aux femmes pour prendre soin de nous, je pense. Enfin, voilà.
Ça, c'est votre intervention. Ouais. Merci. Jérôme, Antoine-Ni vous laisse reconvertir pour se proposer de vous épiler. Et finalement, il va pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manière de voir la profession d'esthéticienne, une manière très genrée, en considérant que ça ne peut être qu'une femme, Monica Moros?
Bien, moi, j'ai entendu ce qui vient d'être dit, mais j'ai aussi des clientes qui, lors de leurs vacances, tombent dans des instituts qui sont tenus par des hommes et elles sont ravies. Tant que ce soit un homme qui les ait épilés, qui leur ait fait un massage, un soin du visage. Donc, je crois que c'est un échange. Et je voudrais terminer mon propos une seconde, dire que l'esthéticienne, c'est quand même quelqu'un de grande qualité de cœur.
Un mot de conclusion, Yvan Jablonka.
Il y a sans doute peut-être des rapports de séduction entre hommes et femmes, esthéticiens ou clientes ou vice-versa, mais il y a surtout une qualité psychologique, je dirais, parce qu'il faut se représenter qu'une cabine d'esthéticienne instaure un huis clos. Enfin, c'est un espace de 6 mètres carrés sans fenêtre, donc on est vraiment entre soi et on est dans un face-à-face qui est sans doute propice à la confidence ou du moins au dialogue. Et il y a aussi une espèce de mise à nu, la mise à nu physique, appelle sans doute la mise à nu psychologique.
Merci à tous les cinq d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Yvan Jablonka, Le corps des autres aux éditions du Seuil et Laure Jean de Mange, votre magazine. Les nouvelles esthétiques, spa, Nagui. Je crois que vous avez les ongles faits, les ongles des pieds, vous aussi. C'est pour ça que vous portez des baskets.
Pour être fait, je suis fait, mais alors vous ne pouvez pas savoir à quel point. nous allons continuer avec une émission au poil. Et Marc Lévy est notre invité. Émilie Nicolas sera là en live. On fera tout pour pas être rasoir.
Eh ben, on va essayer de vous épiler dès 11h, Nagui. À tout à l'heure, tout de suite après le flash.